Bon, mais un filon à fil la face. Privatisation, tous les femmes sont bouillants. Une immobilisée, continuons de riposter.
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 Hey, bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, l'émission du collectif Anarchiste la nuit, en compagnie de Nicolas,
Stéphane
et Julie
et Farouko.
Et Farouko qui est à la mise en onde cette semaine. Alors, on a une émission spéciale sur la place des services publics dans notre société et dans une société libertaire éventuellement, bref, dans notre projet de société. C'est ce qu'on va parler essentiellement pour la prochaine heure. Sauf que, bon, on peut pas le passer sous silence. Mardi dernier, c'était le 8 mars, et ceux et celles qui sont habitués des manifestations à Québec auront reconnu la douce voix de Marie-Ève de Rose-du-Nord dans notre thème en introduction, qui calait les slogans. Donc, cette année, pour le 8 mars, c'était une manifestation dont la revendication principale était contre la contribution santé qui est introduite dans le dernier budget Bachand et qu'on va tous et toutes payer en faisant nos rapports d'impôts incessamment. Donc, ce mois-ci, si vous êtes à vos affaires, puis sinon, ben, peut-être un peu plus tard. Donc, il y a une centaine de militantes qui ont participé à cette marche-là, peut-être une douzaine de militants. Donc, c'était pour le bout d'actualité de la semaine. Et sinon, ben, dans notre grande tradition d'éducation populaire, alors, certains pensent qu'il y a un mystère de Québec et que la radio poubelle y est pour beaucoup. Eh bien, chers auditeurs, vous serez heureux d'apprendre que nous ne sommes pas les seuls à avoir une radio publique, une radio poubelle au Québec. Au contraire, c'est même un phénomène largement répandu. Et cette semaine, ben il y a Kick Radio, qui est en fait un club école de Radio X, si
oui,
je me trompe pas.
C'est eux qui nous ont, ben, je sais pas si c'est eux exactement, mais Bouchard nous vient de dans ce coin-là. Il y en a une coupe, on a
ma
les
filles aussi.
Ouais,
oui, on... En tout cas, bref, le club école de Radio X en est donné à cœur joie. Alors, vous avez pu voir ça dans l'actualité. Il y a le maire Tremblay qui veut continuer de prier le petit Jésus avant les réunions du conseil municipal. Peut-être que ça lui donne de la force de continuer, on sait pas trop. Il y a le mouvement laïque québécois qui a traîné ça en cours. Et puis là, ben là, il y avait un collectif citoyen pour la démocratie à Saguenay qui s'était mis sur pied. Et là, nos charmants animateurs de Radio Poubelle ont découvert que ce collectif était en fait l'œuvre de méchants anarchistes et de méchantes féministes et de maudits syndicalistes.
C'est donc surtout pas dû au fait d'un entêtement d'un gars qui croit en un fils de cocu qui aurait sauvé l'humanité. Non. C'est non. Les méchants anarchistes et la gauche en général.
Et selon nos sources, en fait, ça ferait plus de 6 heures de radio consacrées à ce phénomène dans les 4 derniers jours, 5 derniers jours. Et ben c'est ça. Voyez-vous, l'affaire, c'est que dans notre monde aujourd'hui, étant donné le numérique, ben tout circule et puis les choses s'effacent pas, puis on n'oublie pas. Et puis notre ami François a décidé de nous monter un PPP avec ça, où est-ce qu'il met en parallèle les accusations de l'animateur et une bourde qu'on avait peut-être oubliée il y a quelques semaines de cela. Alors vous vous en souviendrez peut-être, surtout si vous êtes des adeptes de YouTube. Donc la parole populiste.
Ce que j'ai conclu, c'est que tous ces groupes-là, tous les collectifs dont on faisait allusion et les regroupements, ainsi de suite, pour la plupart, en tout cas, ce sont des groupes féministes. Vous, M. Dufour, êtes-vous féministe?
Ben là, je suis un peu sous et drogué parce que je viens de tenir une ligne de foot, là, mais c'est pas pire.
Le collectif Emma Goldman, ça n'a rien à voir. Quand on vous traite de gang de l'extrême gauche, là, vous répondez quoi à ça? Êtes-vous de l'extrême gauche, vous, M. Dufour?
Oh! La belle peau de bébé zone.
Bon, autant que vous ne brasserez pas trop mon maire préféré, le maire Tremblay, vous serez gentil avec lui lundi. Il n'y aura pas de problème, M. Dufour. Ils font quoi dans vie à part le collectif? Est-ce qu'ils ont tous des jobs?
Oh! La belle peau de bébé zone. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire, mais je pense que la recherche a été basée sur des liens Facebook. Puis des liens Facebook, ça dit bien ce que ça veut dire.
Qui a des liens Facebook avec qui? Puis,
Tabarnak!
Il a fait un dossier d'enquête incroyable.
Ah, ouais. Affilié à l'Union communiste libertaine Saguenay.
Oh!
Mais de toute façon, lui, peut-être que l'auditeur, ça le fatigue de savoir qu'il y en a une couple là-dedans qui sont sur l'aide sociale.
Toutes les manifestations qu'il y a eu dans la région, peu importe le sujet, il s'est relaté.
Oh!
Je viens de tenir une ligne de poudre, là, mais c'est pas pire.
Un de mes camarades du collectif réalisait une conférence sur l'anarchisme. C'est toujours des affaires pour gosser puis manifester.
Oh! C'est ça, la démocratie?
C'est de l'activisme, de la manifestation.
OK.
À chaque fois qu'il y a une raison de manifester, okay, ils ont l'air là. Mm-hmm. Après avoir lu leur site Internet, c'est quoi leur but dans la vie, c'est pas mal ça, là. C'est s'activer pour s'activer puis manifester parce qu'on a le droit.
Oh!
La belle peau de bébézon.
C'est vrai que c'est nébuleux comme collectif Emma Goldman. Là.
Il dit que le collectif est tout sauf un vrai mouvement de masse. Ce n'est qu'une façade d'un autre groupuscule d'extrême gauche agissant dans le milieu universitaire et syndical de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Ouais, collectif rebelle, Saguenay. T'as toujours été louche, cette affaire-là. Va lire ça. Puis tu vas voir que c'est bizarre, OK? C'est très bizarre.
Chez moi, elle devait être 9h15 au soir. La mi-décembre, en ce moment, faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue. Sonne, j'ai à peine aperçu l'autopatrouille qui accélérait. Une fois dans mon char, je démarrais, puis tourne à gauche. Direct, je rentre dans la ruelle, me stationnais derrière la piole. Check dans mon rétro, qui que je vois pas la popo. De face, de banane, comme s'ils voulaient me prendre en photo. À peine le pied au sol, on me crie: reste dans ton auto,
oui,
reste dans ton auto,
mais
reste dans ton auto. Ok, j'ai compris, c'est toujours mieux de rester poli. Mais pourrais-je me m'enquérir de vos motifs pour me coller? Écoute, on t'intercepte, on se une capuche sur la tête. Pour ma part, de rétorquer, c'est l'hiver qui fait fret. Je vais te donner un indice, présentement il fait moins 10. Difficilement est la caisse, mais bon, il fallait qu'il insiste.
Yo, tout ce que je dis est vrai, si je mens à l'indice.
En fait, à vrai dire, on n'a aucune idée t'es qui. On veut seulement t'identifier, pourquoi te sentir attaqué. Tu veux savoir pourquoi? First, tu dis que tu connais pas, mais connais-tu le voisin d'en face ou bien la petite madame d'en bas?
Non.
Connais-tu chaque citoyen de la ville?
Non.
Alors pourquoi susciterais-je plus son intérêt? Qu'est-ce qui me différencie en telle ou telle personne ici? Qu'est-ce qui dans mon apparence fait que tu me demandes mes IDs? Apparemment perplexe, il me répond je suis pas trop. Profilage, la vie n'est fake avec l'aval de ses patrons. Ici à Québec, ça fait partie de la tradition. Laisse-toi coller, ferme ta gueule, surtout faut pas poser de questions.
Non, c'est pas vrai, faut que tu poses des questions. Mais reste poli, reste calme. Prends le matricule en note, prends la date, l'heure. Comme ça tu te montes un dossier, mais reste calme.
Bah souvent elle s'excite, dès qu'il pense au seton. Va demander à Bixi si ta face repose sur le béton. Pourtant une ville tranquille, donc ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de jeunes ou policiers sont bien trop chauds à battre le fer. Tout frais sont plus du four, 22 ans et demi. Une page, une arme à feu, mais si peu d'expérience de vie. Y'a pas de gang, juste prête aux politiques. Tout ce qu'ils veulent sur le budget afin de payer les temps sucs. C'est tellement irresponsable de la part de l'état-major. Stigmatise pop et black, je leur envoie le doigt major. Adepte de la répression, ils pensent qu'ils vont tout régler seuls. Ne leur parle pas de prévention, c'est un concept qui déboussole. Mais bon, pour être honnête, ils sont pas tous des brutignards. Faut pas généraliser, même si c'est plutôt dur d'y croire. Et ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Mets ton poing dans les airs si jamais ça t'est familier.
Si jamais ça t'est familier.
Et c'était Webstar avec la pièce SPVQ sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Je trouvais qu'une pièce sur les services de police de la ville de Québec était tout à fait appropriée pour introduire une émission spéciale sur les services publics dans une société libertaire. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les anarchistes ne font pas que défendre le statu quo. Il y a des choses qu'ils veulent pas reproduire, qu'ils veulent pas avoir des nouvelles affaires. Enfin, bon. Dans le contexte actuel, il y a une manifestation samedi à Montréal, une grosse manifestation le 13 mars, pour protester en fait contre le budget qu'on va nous faire passer au travers de la gorge. La semaine dernière, on est allé regarder un petit peu qu'est-ce que ça impliquait, les hausses de tarifs, qu'est-ce qui se passait derrière la fiscalité et tout. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas, tant qu'à avoir une émission animée par un collectif anarchiste sur une radio communautaire, pourquoi pas faire une émission spéciale sur les services publics. Et puis donc, ben, c'est ça qu'on va faire pour la prochaine heure. En compagnie des autres, de d'autres camarades du collectif, on va être quatre à intervenir sur la question.
C'est alors, pas le 12 mars, la manif? 12 mars?
Oui, c'est le 12 mars. J'ai dit quoi?
13.
J'ai dit le 13. Pourquoi j'ai dit le 13?
C'est pas...
C'est le subconscient.
La désinformation fait des ravages à ces CKIA.
C'est un petit côté italien, là. Le 13 étant un chiffre chanceux pour eux.
OK.
Tu veux que ça se passe bien?
Bon, enfin, bon, bref. Toujours est-il que la lutte pour la défense des services publics et des programmes sociaux bat son plein. Y a des attaques évidentes de la part de l'élite qui profite d'une crise, en fait, qui est complètement préfabriquée des finances publiques pour attaquer idéologiquement et pratiquement l'ensemble des services publics et, en fait, des politiques de solidarité sociale qui sont en cours. Donc, on a parlé régulièrement là, des hausses de frais, de tarifs, du financement régressif des services, des privatisations qui sont au menu. Et puis, c'est ça, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour défendre des conquêtes sociales essentielles que sont les services et les programmes. Et puis, voilà. Sauf que souvent, la défense se fait sous forme d'une défense du statu quo. En fait, les gens sont dans une position purement défensive, les organisations sont dans une position purement défensive, et donc prêtent flanc à la critique. Et en fait, on peut plus faire l'économie d'une critique du statu quo puis d'une critique des services publics, parce que concrètement, l'expérience de la majorité des gens avec les services publics, avec l'État, c'est loin d'être une expérience globalement et totalement positive. C'est une expérience qui est très nuancée, en fait, et qui dépend beaucoup de où on se situe dans la société puis de qu'est-ce qu'on a à faire. Je suis pas sûr que tout le monde qui a eu à faire un agent d'aide sociale, par exemple, en a retiré quelque chose de super positif, très formateur et bon pour l'estime de soi, tout comme avec le service des prêts et bourses ou toi, tu avais eu des rencontres avec un service public de sécurité à l'Université Laval là, aussi.
Oui, mais oui. C'est pas public, l'Université Laval.
Ah non, ok, d'accord. On n'embarquera pas là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'un service public? Justement, c'est pas public, l'Université Laval. Par contre, c'est financé par... Et un service public, en fait, c'est une activité... Si on se fie là, à la coalition opposée à la tarification, à la privatisation des services publics, à laquelle, nous, on est supposé être membre sympathisant. On n'est pas supposé, en fait, on est membre sympathisant. Un service public, c'est une activité qui est exercée et contrôlée par l'État dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Et là, on a tendance de plus en plus à parler... par une administration publique. Donc, l'Université Laval se fait déléguer la prestation d'un service public qui est, en fait, l'éducation, parce que, de fait, c'est normé à l'os et sans, en fait, cette délégation de service-là, il n'existerait juste pas de façon purement privée. Là.
Mais la seule raison pourquoi il n'y a pas d'université du réseau des universités du Québec à Québec...
C'est à cause de l'Université Laval.
C'est ça. Ils n'ont pas osé mettre une université catholique privée sur le cul, fait qu'ils ont fait ça.
Ils ont fait ça à place. Et donc, c'est ça, il y a plusieurs des services publics au Québec comme ailleurs, en fait, qui sont en lien avec la réalisation de droits humains, puis qui assurent à tous et toutes des... qui essaie de jouer sur la question de la solidarité et de la cohésion sociale. Donc, c'est en fait, contribue à la solidarité, à la cohésion sociale. Puis c'est là, en fait, qu'on touche... En fait, la nature des services publics et leurs limites. Parce que, d'un côté, effectivement, on a un aspect qui est une conquête sociale, qui est de permettre, en fait, la réalisation des droits, de permettre de répondre à des besoins. Et d'un autre côté, on a des limites qui sont évidentes dans la mesure où les services publics ne font pas que profiter à leurs usagers. Ils ont été aussi créés puis mis en place par l'élite pour répondre à des besoins économiques, à des besoins... C'est pas seulement les gens qui ont besoin d'être éduqués, c'est aussi le patronat qui a besoin d'une main-d'œuvre qui est capable de faire ce qu'elle a à faire et donc qui doit être minimalement éduqué, par exemple. Et donc, c'est ça. La limite des services publics se trouve essentiellement dans cet aspect-là de contrôle social, de cohésion, et en fait, dans ce qu'ils permettent les services publics d'intégration, finalement, à la société capitaliste, qui permettent à tout le monde de fonctionner, à cette société-là de fonctionner en partie. Et actuellement, bon, il y a des enjeux là dans la lutte pour des services publics gratuits de qualité. On a parlé de beaucoup d'enjeux, mettons, dans la dernière année ou dans les deux dernières années. On est revenu souvent avec les attaques à l'accessibilité des services, par exemple, à qu'est-ce que ça pouvait impliquer pour les gens selon leur position sociale et tout, qu'il y a des attaques à ce niveau-là. Ça, je pense que c'est quand même un aspect qui est relativement relativement bien documenté. Ce qui est peut-être un peu moins documenté, c'est le pourquoi du comment du complot. Pourquoi qu'on se retrouve dans cette situation-là? On s'est dit que Stéphane, il pourrait peut-être nous éclairer nos lanternes sur en fait les enjeux de la lutte actuelle, les termes du débat.
Oui. Ben en fait, moi, je vais le prendre d'un point de vue économique, si on veut dire, tu sais, le pourquoi on veut tarifer, puis on veut privatiser les services sociaux. Je vais essayer de l'identifier dans le point de vue des programmes sociaux à l'intérieur de l'économie capitaliste, en fait. Comment, pourquoi c'est un poids pour l'économie capitaliste de soutenir, en fait, des programmes sociaux. Mais d'abord, en fait, faut quand même placer historiquement d'où viennent les programmes sociaux, les services publics. Ça a été principalement, en fait, le fruit des conquêtes démocratiques, qui étaient menées par le mouvement ouvrier, puis les mouvements populaires, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Principalement, il y a eu le mouvement populaire, le mouvement ouvrier s'est organisé pour revendiquer bon, l'assurance chômage, l'éducation gratuite, la santé gratuite, tout ça. Puis, il a fallu, étant donné la force, en fait, de la mobilisation de ces mouvements-là, il a fallu que l'État, en fait, puis les capitalistes, fassent un compromis, si on veut, historique avec le mouvement ouvrier, parce qu'il avait peur que ça dégénère. Tu sais, il y a eu les mouvements
Il y avait peur d'une révolution communiste.
Il y avait peur d'une révolution communiste, c'est ça, carrément. Fait qu'ils ont été obligés de donner du lest, en fait, puis de mettre sur pied des programmes sociaux accessibles et gratuits, accessibles à tous. C'est ça, en fait, c'est là que je veux en venir principalement. Il faut insister sur le fait que ces services-là sont gratuits et accessibles, puis que dans le cadre de l'économie capitaliste, ça représente une inversion, en fait, de la logique fondamentale, en fait.
C'est une anomalie.
C'est une anomalie parce que dans la logique du capital, en fait, c'est de s'accumuler puis de se reproduire à l'infini. Donc, la masse, en fait, de travail, d'argent qui est investi dans des services publics qui sont gratuits, qui rapportent pas de profit, c'est vu comme une dépense improductive, en fait, aux yeux du capital. Donc, même si on a essayé de transposer les normes d'efficacité dans le secteur du secteur privé au secteur public, là, c'est-à-dire bon, on va vouloir augmenter la productivité, on va diminuer les salaires, on va augmenter l'intensité du travail, tout ça dans les services publics, ça reste que fondamentalement quand même, c'est des services qui demeurent gratuits, donc qui produisent pas de capital, puis qui sont à abattre en fait. Mais on va faire un petit twist un peu pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils l'attaquent finalement. Parce que bon, on peut se dire, OK, ils pourraient le tolérer puis faire leur argent.
Ben, après tout, ils l'ont toléré pendant 30-40 ans.
Oui, ils tolèrent, en fait, ils essaient de l'attaquer, mais c'est la mobilisation qui fait qu'on le garde. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent l'attaquer? C'est que dans le processus même, en fait, du développement du capital, le capitalisme n'a pas le choix de toujours créer de nouveaux marchés. Il n'y a pas le choix de toujours être en croissance, sinon il s'effondre. En fait, je ne vais pas rentrer dans les contradictions internes profondes de l'économie politique, mais pour que le capitalisme continue d'exister, il n'y a pas le choix de croître.
Donc, il faut trouver des nouvelles manières de faire de l'argent.
Exactement. Puis, une de ces manières-là, c'est d'attaquer les services publics, parce que c'est vu comme des secteurs qui n'ont pas encore intégré la logique du capital, donc ils sont des marchés à conquérir, puis qu'on doit absolument aller rendre productif au sens du capitalisme. Donc, c'est un peu l'agenda néolibéral depuis les années 80. Les idéologues de droite, avec les politiciens, ont commencé de petit à petit, à chaque budget, à vouloir tarifer, à vouloir privatiser, pour que finalement, un service qui est comme une consommation publique, si on veut, collective, l'éducation collective, tout ça, devienne un acte de consommation privée, comme le reste de l'économie. C'est-à-dire, on va essayer de rendre ces activités-là de façon de privée en mettant des barrières à l'accessibilité, en mettant des tickets de modérateur.
Pour éventuellement pouvoir mettre la main sur la prestation.
Mettre la main sur la prestation, mais pas éventuellement, à moyen terme, que ça devienne complètement privatisé, en fait, puis que ça devienne des secteurs économiques qui rentrent totalement dans la logique du capital, qu'ils soient des secteurs où est-ce qu'on produit, qu'on va pouvoir extorquer puis du profit, puis extorquer la plus-value. Fait que c'est un peu ça le fondement, en fait, des attaques, le fondement économique des attaques sur les services publics, c'est de rendre ces services-là des secteurs comme traditionnels du capitalisme qui puissent produire Tu profites.
Ouais. Moi, si je me trompe, quand j'ai commencé à militer à Québec, on parlait beaucoup de l'AMI, par exemple, l'accord multilatéral sur les investissements. On a beaucoup parlé de la zone de libre-échange des Amériques. Il y avait, il y a 10-12 ans, toute une série de mobilisations autour des accords de libre-échange, puis on nous annonçait ça. Puis dans le fond, c'est finalement cette mondialisation-là qui revient par la bande dans nos discours nationaux, qui est essentiellement d'ouvrir des nouveaux marchés publics. Puis c'est en lien avec la négociation sur le libre-échange avec l'Europe, finalement.
Absolument. C'est la même logique de réglementation, de privatisation. Puis ils sont liés aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où on commence à ouvrir les services publics à la privatisation, tout ça, ben quand c'est lié au libre-échange, ça veut dire que c'est des capitaux étrangers, des capitaux qui viennent de partout, qui peuvent venir investir, en fait, puis faire accroître leur capital dans nos services publics nationaux. C'est le but, en fait, de ces accords-là, de l'AMI puis de l'ASEA, c'est d'ouvrir les services publics aux investissements internationaux, puis qu'ils puissent venir faire de l'argent, des hôpitaux privés américaines qui viendraient se construire puis qui viennent faire le...
Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant avec une analyse comme celle-là, c'est qu'on se rend compte aussi de toute l'importance des mouvements sociaux, tu sais, puis des chasses gardées, finalement, de ces services publics-là sont directement liées aussi à l'ampleur des mouvements sociaux, qui est souvent, les services publics seront quand même une des premières portes d'entrée des mouvements sociaux, ou en fait, des batailles, en fait, là, très importantes.
Ben justement, ça va nous ouvrir sur le deuxième bout qu'on va faire en revenant de la musique. Juste pour résumer, là, si j'ai bien compris, quand on dit ils veulent nous faire payer leur crise, on pense surtout à ils veulent nous faire rembourser le fric que ça a pris pour les renflouer. Mais concrètement, ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait, l'économie est en crise, a de la difficulté à redémarrer, puis ils veulent nous la faire payer en leur donnant les marchés nécessaires pour la redémarrer.
Absolument, absolument. Puis on va sortir les spectres du fait qu'on n'est plus capable de se payer ça, que on va essayer de démontrer, en fait, les idéologues de l'Europe vont essayer de démontrer que les services publics, c'est un poids pour le redémarrement de l'économie, puis que la seule façon de le rendre rentable, puis que ça fait, c'est de le privatiser, puis de faire de l'argent avec, en fait. On va redécoller l'économie en ouvrant le marché des services publics, puis en faisant de l'argent avec, puis là, ça sera plus un poids, parce que ce sera plus des dépenses qui font qu'on peut pas faire du profit avec, mais plutôt, ça va devenir un nouveau secteur d'avenir, en fait, pour le capital, pour qu'il puisse... s'accroître.
Eh bien, donc on va revenir sur... en fait, il y a d'autres logiques qui sont possibles, il y a d'autres façons de voir, d'envisager tout ça. On va revenir avec Julie tout de suite après. Je sais pas, qu'est-ce que tu voulais nous mettre comme musique, Faruko?
J'ai sorti SNFU des Boulamites, juste pour toi.
Ah ouais, c'est sûr que pendant une émission spéciale sur les services publics, Society No Fucking News, c'est vraiment approprié.
Ça va de soi. Ouais, ça va aller mieux si je choisis le bon.
Alors, c'était voir la vie au fond d'une bouteille. De société n'a pas de crise d'utilisation.
C'est bien.
SNFU sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez toujours Voix de fait, une émission spéciale sur les services publics. Dans notre société, leur nature, leurs limites, les attaques qu'il y a contre, et éventuellement dans une société libertaire. Puis là, ben, on va être rendu à jaser avec Julie d'autogestion.
Oui, mais en fait, l'émission spéciale, c'est non seulement sur les services publics, mais sur les services publics autogérés.
Ah ben oui, c'est vrai. Donc, je fais du révisionnisme historique.
En fait, je ferai peut-être une première parenthèse parce qu'on ne l'a pas vraiment mentionné en introduction, mais il faudrait distinguer les services publics des programmes sociaux d'une part, hein, parce que quand on parle de services publics, des fois ça peut être flou pour nous, bon, c'est quoi un service public exactement, mais un service public, c'est différent d'une entreprise d'État, d'une part, mais également des programmes sociaux. Hein. L'aide sociale, par exemple, c'est un programme social. Il peut avoir des lois différents programmes sociaux. Ensuite, je ferai un deuxième préambule sur des expériences concrètes d'autogestion, pardon. En fait, souvent, le mouvement communiste libertaire et parfois même les communistes en tant que tels vont faire des erreurs, assez importante, si on peut dire. Ils vont peut-être balayer, d'une part, l'autogestion ou les expériences d'autogestion concrètes et quotidiennes en les qualifiant peut-être de moins importantes que les mouvements sociaux. C'est pas le grand soir, effectivement. Mais je pense qu'il faut quand même remettre de l'avant l'idée que l'autogestion, c'est important. Ici, même à Québec, on a des expériences d'autogestion. Hein, on peut penser à la page noire, notamment. Et on peut également penser à des revendications d'éco-quartiers radicaux qui pourraient être également des espaces d'autogestion concrets dans nos vies, bien que présentement, c'est pas le cas au Québec, mais ça existe ailleurs dans le monde. Et il y a notamment la Pointe libertaire à Montréal qui revendique également aussi des éco-quartiers radicaux d'autogestion, des espaces autogérés, des lieux avec des bibliothèques anarchistes, par exemple, ou des bibliothèques autogérées et autres. Mais si on parle de services publics en tant que tels, parce que des expériences d'autogestion, c'est peut-être plus quotidien où on en croise davantage dans nos milieux, mais des services publics, par contre, autogérés, ça, c'est plus rare.
Oui, bien, surtout que tu le disais, les communistes libertaires, Stéphane aussi le disait, on a pêché souvent aussi en y allant juste sur la sphère de la production, puis autant les capitalistes, c'est une anomalie pour eux, les services publics, parce que c'est justement, c'est gratuit, autant pour les révolutionnaires, historiquement, c'était un projet de producteur, et après de productrice, fait que ça a été beaucoup moins fréquent, l'autogestion, le contrôle ouvrier dans les services.
Oui, tout à fait. Mais si on essaie de penser peut-être les services publics de façon large, on pourrait se dire même que des projets de compostage, pour maintenant sont peut-être des services publics de l'avenir. Hein? On pense au projet de la Ville de Québec de vouloir institutionnaliser et rendre ce service à la population de la Ville de Québec. En fait, le compostage qui serait industriel, mais on sait que présentement, il y a plusieurs quartiers à Québec qui font le compostage dans une perspective, en fait, autogestionnaire aussi, c'est des citoyens, des citoyennes qui se regroupent.
Les collectifs éco-quartiers, par exemple.
Les collectifs éco-quartiers, par exemple, ça, c'est un très bon exemple. Et je pense qu'il y a quand même quelques comités de citoyens et de citoyennes aussi qui vont faire des projets de compostage ou peut-être des immeubles également. Des fois, il y a des immeubles parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils vont installer un service de compostage. Et peut-être, qui sait, dans quelques années, ça sera un service public, comme en Allemagne. Le compostage industriel est un service public. Et par contre, je voulais quand même discuter un petit peu plus en profondeur d'un service public autogéré ou du moins d'une perspective d'autogestion qui a été assez marquant à mon avis pour le Québec. C'est tout ce qui entoure les maisons de naissance ou les cliniques de planning, en fait, peut-être plus spécifiquement les cliniques de planning en général, pas seulement les maisons de naissance en tant que telles. Et
Parle de santé reproductive.
On parle de santé reproductive, en fait, c'est sûr. Évidemment, au Québec, on se rappellera qu'il y a très peu longtemps, la santé reproductive était quand même bannie de l'État, même criminelle, criminalisée. En 69, avec le Bill Omnibus, qui est quand même une date importante à retenir, on décriminalise la contraception, c'est-à-dire que pour la première fois, en fait, on peut commencer à faire de l'éducation sur la sexualité et à distribuer de la contraception. Et en 69, avec le Bill Omnibus, on décriminalise par ailleurs également l'homosexualité. Mais en 69, c'était également une date où le mouvement anglophone féministe de Montréal particulièrement va appuyer la première clinique de Morgan Teller. Morgan Teller, on se rappellera, qui est quand même un grand homme qui s'est fait emprisonner à plusieurs reprises pour avoir pratiqué des avortements et avait pratiqué déjà en fait les avortements, mais ouvre également une première clinique, alors même qu'au Québec, les avortements sont toujours illégaux ou du moins en tout cas doivent être encadrés par un comité thérapeutique dans des hôpitaux spécifiques.
Il n'y a pas de place pour le libre choix.
Non, ni la libre conception de ces libres avortements, en fait. Et en 1972, il y a le Centre des femmes de Montréal qui va ouvrir ses portes avec deux ex-femmes du FLF, Front de libération des femmes du Québec, notamment, et qui va former quelques années plus tard avec notamment la DDS, l'Association de défense des droits sociaux, un comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit. Et le Centre des femmes de Montréal, en fait, c'est sûr qu'il va avoir une vocation, évidemment, dans tout ce qui se rapporte à la santé reproductive, la santé sexuelle des femmes. Mais à ce moment-là, donc, on prend en charge, on peut dire, c'est ce qui sera plus tard assumé par un service public, donc toute la question du planning familial. Mais les femmes s'organisent elles-mêmes, disent « c'en est assez, même si c'est légal, nous on va le faire, nous on va les pratiquer, les avortements. »
Ils ont identifié un besoin, ils ont décidé de se le donner.
De se le donner, ce qui de toute façon se faisait déjà par la bande, mais commence du moins à s'organiser pour que ça soit un petit peu plus…
Organisé.
En 1976, il y a 27 centres hospitaliers au Québec qui ont un comité thérapeutique, donc qui peuvent offrir les services d'avortement via leur comité. Donc, les femmes, on se rappellera, doivent passer devant un comité thérapeutique.
Et c'est le comité qui a le dernier mot?
C'est le comité qui a le dernier mot. Le premier et le dernier même, je pense.
C'est lui qui décide.
C'est lui qui décide. Ça, il n'y a pas de doute. Mais, donc, il y a 25 centres hospitaliers en 76 qui offrent ce service de l'avortement sur une possibilité de 95 centres hospitaliers, mais seulement 14, en fait, sont fonctionnels. Donc, les autres ne sont pas fonctionnels. Tout simplement, il y a soit que supposément il n'y a pas de demande, soit que supposément il n'y a pas d'offre. Hein? Donc, on peut s'imaginer que c'était peut-être un peu des deux.
Il y a un comité, mais il ne se réunit jamais.
Tout à fait. Et donc, il donne pas, il n'avalise pas les avortements. Toujours en 76, quand même, c'est pas il y a très peu de temps, il y a 97,6 des avortements qui sont pratiqués à Montréal et de ceux-là, 93% en milieu francophone. Donc, déjà, c'est une statistique qui, en 76, on peut se douter que l'avortement était tout de même déjà pratiqué. Hein? On peut pas dire que 93% des avortements sont effectués en milieu anglophone seulement parce que les femmes anglophones en ont besoin. Donc, on s'imagine très bien que les femmes s'organisent elles-mêmes avec, que ce soit dans l'informel avec des médecins, que ce soit elles-mêmes. On se rappellera toujours de l'image dans les manifestations féministes, notamment hier, il y avait hier, c'était effectivement le 8 mars, si vous nous écoutez en ondes en direct aujourd'hui, le 9 mars. Et c'est cette image frappante du cintre qui, on espère, ne pas revenir en arrière, en fait, justement parce que les femmes pratiquaient elles-mêmes leur avortement. Et en 77, on met de l'avant les cliniques Lazur, en fait, ou plutôt le gouvernement autorise la formation des cliniques Lazur et dans plusieurs hôpitaux.
Qu'est-ce que ça veut dire, Lazur?
Lazur, c'était seulement la personne qui présidait la commission quelconque. Donc, comme la commission Bird, la commission Bird qui était la commission la commission sur les femmes. Donc, en 77, les cliniques Lazur, le gouvernement les autorise et ils vont se mettre sur pied tranquillement un petit peu partout à travers la province. Et on se rappellera par la suite, en 88, il y a la décriminalisation. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que même dans la mise en place des cliniques LASUR, autant avant, pendant et après, les femmes continuent à s'organiser, hein, et elles n'attendent pas que l'État institutionnalise la décriminalisation de l'avortement, mais elles pratiquent elles-mêmes les avortements, que ce soit les infirmières, parfois, dans les centres hospitaliers, hein, qui vont donner des contacts, même des... les religieuses ont beaucoup porté ce mouvement, en fait, disant non moralisateur, si on peut dire, ou bien du moins pour aider la santé des femmes, dire comme on va pas vous permettre de vous avorter vous-même, on va plutôt s'organiser dans un réseau parallèle, en fait. Et si on peut dire, ben elles autogèrent leur propre service d'avortement.
Leur propre clinique, finalement.
Leur propre clinique, effectivement.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore présent, les cliniques autonomes?
Les cliniques autonomes, en fait, on va plutôt les appeler les cliniques privées.
Ah oui, autonomes dans ce sens-là.
Non. Il y a des cliniques privées d'avortement. Ici, à Québec, il n'y en a plus. Donc, il faut seulement aller dans les cliniques de planning familial. Mais c'est sûr que tout le concept des cliniques de planning familial viennent vraiment, ont été calqués sur, par exemple, je donnais tantôt, du Centre des femmes de Montréal, hein, qui a été fondé en 72.
Est-ce que ça a un lien avec Planned Parenthood? Est-ce que ça a un lien avec Planned Parenthood? Non, OK.
Écoute, peut-être, hein? Qui sait? Qui sait?
Parce qu'aux États-Unis, au Canada anglais, ça s'appelle comme ça, les cliniques de planning familial. Je sais pas si...
Ben, probablement, dans leur mission, dans leur vocation, en fait.
Ben, en fait, en général, c'est des affaires qui ressemblent à un CLSC, là, mais qui s'occupent juste de,
ben, les
de
cliniques,
sexualité, en fait.
Les cliniques de planning familial sont souvent, oui, quand même, je dirais peut-être majorité, en fait, instituées dans les CLSC. Hormis ici à Québec, parce qu'on a des grands centres hospitaliers, et à Montréal, c'est effectivement le cas également. Mais habituellement, en région, ils vont être jumelés au CLSC. De toute façon, les cliniques LASUR étaient vraiment étaient un mandat donné au CLSC aussi, donc pour faire l'éducation sexuelle, rendre accessible la contraception. Bon, on se remet quand même à l'époque, là. C'est plus l'accessibilité qu'on a aujourd'hui. Ben,
aujourd'hui,
mais...
c'est particulièrement accessible. C'est juste peut-être pas accessible à toutes les bourses.
Oui, voilà, et quand même, mais avec quand même le contraceptif oral d'urgence qui peut être distribué par les infirmières dans le milieu scolaire, quand même, on augmente d'accessibilité là, d'année en année. Même s'il y a encore du travail à faire, notamment dans les régions et les communautés autochtones qui sont particulièrement touchées par l'accessibilité.
Ça va pour l'autogestion? Tu voulais toucher aux maisons de naissance ou?
Ben, en fait, peut-être, ce qu'on pourrait dire pour les maisons de naissance, c'est surtout que, présentement, il y a quand même des revendications importantes dans plusieurs régions à travers la province pour avoir accès aux maisons de naissance, donc pour avoir un financement gouvernemental et rendre accessible ce service. Si ma mémoire ne me trompe pas, pas les maisons de naissance en tant que telles, mais plutôt les femmes qui travaillent dans les maisons de naissance,
les sages-femmes,
merci, les sages-femmes, leur profession se fait décriminaliser, si je me rappelle bien, en 96, mais en tout cas, ça fait vraiment...
En fait, c'est pas tant qu'elle est décriminalisée qu'elle est enseignée au Québec, parce qu'avant, c'était pas nécessairement criminel, mais il fallait aller en Suisse, il fallait faire
c'était
son cours
criminel,
d'infirmière, puis aller...
Jusqu'au moins dans les années 90.
Ah oui, okay.
Ça, je suis certaine, mais je pourrais revenir à l'émission de radio pour en discuter davantage.
Donc, c'est probablement plus que moi.
Mais je pense qu'effectivement, en 96, il y a une professionnalisation. Mm-hmm. Donc, on titularise le titre au niveau gouvernemental des sages-femmes. Mais les sages-femmes, c'est également un autre service qui maintenant est rendu public, mais qui est assumé par les femmes dans les maisons, chez elles, autant chez les sages-femmes en tant que telles que chez les femmes.
Ça vient d'être relancé, là, la possibilité... d'accoucher à la maison, entre autres, puis de le faire en toute légalité, là.
Oui, tout à fait.
Ça fait juste quelques années, là, que c'est permis. Les maisons de naissance, effectivement, il y en a quelques-unes qui sont nées, là, ou en fait qui ont été officialisés au milieu des années 90, début des années 90. Là, je sais plus si c'est quelque part entre 92 et 97, là, mais je ne saurais pas dire quand exactement. Là, mais ça a été gelé pendant super longtemps. Puis là, ça recommence tranquillement pas vite. Là, on en a une à Québec qui est née, qui est venue au monde à Limoilou après, mon Dieu, 7 ans de lutte. 10 ans de lutte des femmes, des groupes de femmes, des militantes autonomes là, à Québec. Fait que, si je comprends bien, en fait, ce qu'on voit pour l'autogestion au Québec dans les services publics, on le voit surtout, en fait, quand il y a des nouveaux besoins qui émergent, les gens s'organisent pour se les donner, puis qu'ils mettent sur pied des systèmes alternatifs, en fait, à côté, puis éventuellement s'institutionnaliser, puis on entend moins parler d'autogestion par la suite. Je me trompe ou...
Non, je pense qu'on ne se trompe pas en faisant cette analyse des choses, mais en même temps, c'est vrai que ça félicite quand même les choses quand il y a une professionnalisation d'un titre, par exemple, ou quand on... Parce que c'est sûr qu'avec une professionnalisation, va venir une reconnaissance, un salaire aussi, parce que quand même...
Des
conditions de travail. Donc, avec des femmes qui peuvent maintenant se permettre de pratiquer leur profession en non seulement en toute légalité, mais surtout dans des conditions de travail... davantage intéressante pour elle. Par contre, je reviendrai quand même encore avec ce dont j'ai parlé un petit peu très brièvement tout à l'heure sur la question des mouvements sociaux. En fait, c'est sûr que quand on passe de l'autogestion à l'institutionnalisation, mais c'est bien évident que tout ça est entre les deux, il y a l'espèce de trou, ou plutôt le trou très bien comblé avec les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux sont présents dans la lutte à l'avortement, mais également dans les maisons de naissance présentement, les gens...
Tout le mouvement naissance-renaissance. Puis...
Tout à fait. Les gens en région, ou du moins les femmes en région, veulent avoir des maisons de naissance et le revendiquent fièrement, notamment dans la région du Saguenay, mais ailleurs également au Québec.
Il en reste toujours quelque chose des pratiques alternatives. Ça prend très longtemps avant de finir de les digérer et de les rendre complètement inopérantes et totalement intégré à la gestion de l'État. Est-ce qu'on a fait le tour?
Oui.
Est-ce qu'on a de la musique?
Oui.
Au retour, on va parler de services publics dans une société libertaire avec Mathieu. Puis là, on s'en va écouter quoi?
Là, on s'en va écouter une toune vieille encore sur un service public excessivement prisé des conservateurs.
J'ai un grand frère, il s'appelle Lap. Il va partir à la guerre. Toute ma famille est très fière. Au moins je peux y aller. Au moins je peux crever. Je suis allergique aux armes, mais à la marche à pied. Hey! Hey! Mon frère n'est pas revenu, il est mort au combat. Dans une fosse anonyme, maintenant il reposera. Mon père a honte de moi, même si je suis un clapin. Mais mieux vaut être une antimante qu'une fierté mentale. Le but a raison, et les morts sont des cons. Et moi aussi maintenant, je suis sur leur tombe. Pour dernier enfant de tout ce qui leur reste. Un bout de cimetière, et cette fierté que j'y teste. Voilà. Voilà. Adieu.
Hey, c'était Olaf de Banlieue Rouge. Alors, évidemment, le service public dont il est question, c'est le service de livraison de la mort dans nos anciens, dans les pays un peu partout. Donc, juste vous dire, avant de passer à Mathieu et au service public dans une société libertaire, alors on a des auditrices très attentives. C'est en 1990 précisément qu'une loi qui permet l'expérimentation de la pratique sage-femme, mais c'est seulement en 99 que la vraie loi est adoptée, et c'est cette année-là que le programme universitaire de formation des sages-femmes peut commencer. Et donc, ben c'est ça, en 2009, il y a 2 ans, les sages-femmes ont fêté leurs 10 ans de légalité. Puis, ben c'est ça. Voilà. On y va avec la suite et la fin de cette émission. Donc, on va conclure cette émission spéciale sur les services publics dans une perspective libertaire avec Mathieu. Alors, on a déjà touché à la nature et aux limites des services publics actuellement, aux enjeux de la lutte pour des services publics gratuits et de qualité, et même à des expériences concrètes d'autogestion. Maintenant, elles sont touchées un peu du doigt à l'utopie, à la société libertaire. Donc, les services publics, comment on voit ça dans une société anarchiste?
Ben, d'abord, à moins de penser qu'une société peut... qu'on peut vivre en autarcie, loin les uns des autres, sans avoir de lien ensemble, il me semble qu'il faut penser justement là, au bien-être des collectivités, puis se donner ensemble des services sur des enjeux importants là, qui touchent notre vie en collectivité. Et en ce sens-là, je pense pas qu'il faut y mettre de côté finalement la question des services publics purement et simplement en disant on s'arrangera plus tard, etc. Donc il faut penser tout de suite à des façons de faire, puis aussi à des grands principes, donc de se projeter en avant, puis dire qu'est-ce que devrait être des services publics. En fait, la question des services publics prise actuellement montre ses limites, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais pour les anarchistes, en fait, devrait être public tout ce qui est d'utilité sociale. Donc, on peut penser, par exemple, à la question du logement, à la question de la nourriture, aux besoins fondamentaux qui, actuellement, sont laissés à toute fin pratique au marché purement et simplement. Donc, il faut d'abord passer dans une société anarchiste où tout ce qui est d'utilité sociale pourrait devenir aussi service public. Mais avec des principes plus clairement où la démocratie directe entre en application, c'est-à-dire où les personnes qui sont directement concernées par des problèmes ou par des situations ont non seulement une voix au chapitre, mais sont aussi capables d'intervenir, d'agir sur leur bien-être, sur leurs conditions de vie. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'une collectivité ou des collectivités fédérées entre elles se donnent des services de santé, mais évidemment, d'une part, il y a les usagers, donc du service de santé, et les professionnels qui, conjointement, vont élaborer une façon de couvrir l'ensemble des soins nécessaires, de trouver des façons d'administrer les ressources. Et en se passant de tout l'appareil bureaucratique de surveillance, de gestion de personnel comme il existe aujourd'hui, ce qui fait en sorte que, par exemple, dans l'appareil d'État, il y a beaucoup de cadres, mais souvent peu de personnes sur le plancher pour donner des services directs à la population. Donc, c'est une façon, finalement, de retourner les choses à l'envers et de dire, non, on va mettre plutôt les besoins de la population au cœur de la prestation de service. Et en enlevant finalement toutes les considérations d'ordre, justement, le profit qui doit être réalisé dans certains cas, là, à travers tout ça.
Quand tu parles d'utilité sociale, ben justement, en l'absence d'État, comment est-ce qu'on se retrouve à qui définit finalement cette utilité sociale-là et qui définit finalement qu'est-ce qui devrait être service public et qu'est-ce qui devrait être assumé par la collectivité?
Ben, je pense que c'est probablement les personnes directement concernées. Il faut effectivement faire des choix. Je pense pas que les ressources sont illimitées. Mais il faut justement penser en termes d'économiser les ressources. Et je pense pas juste en termes de ressources monétaires, là, au contraire. Non, c'est plutôt au niveau de la façon dont on produit, dont on conçoit la société elle-même. Donc, je donne un autre exemple. On doit penser de façon écologiquement responsable la façon dont on va, par exemple, penser la question du transport en commun, ça fait partie du transport tout court, ça fait partie des choix. Quand on pense à un service public de transport, il faut penser non seulement en termes de bien-être des populations, mais de respect finalement des écosystèmes dans lesquels on se trouve. Donc ça va conduire probablement à des choix radicalement différents là, en termes de, là je parle du transport, mais on pourrait parler aussi de la question de la façon dont on se chauffe, de la façon dont on s'éclaire. Actuellement, c'est souvent par une analyse coût-bénéfice que les décisions sont prises. Je pense qu'une société anarchiste met de l'avant toute une série de valeurs alternatives à celles qu'on connaît actuellement dans le système capitaliste.
Comme?
Ben, les valeurs, oui, d'égalité, de solidarité, de respect, justement, pour l'équilibre des écosystèmes et de liberté aussi pour les individus. Et ça, c'est indissociable. Donc, il ne faut pas, à mon avis, qu'on replonge dans une façon, dans un moule où on impose par en haut des décisions prises et que tout le monde doit s'y soumettre. Comme c'est un peu le cas, malgré une société libérale qui met de l'avant le libre choix, il faut bien le reconnaître, quand on est face au service public, c'est souvent caractérisé par une absence de choix. Mais je faisais plutôt référence peut-être à une société socialiste ou communiste autoritaire, où finalement les gens étaient placés devant des situations auxquelles une absence de choix, y compris dans leurs besoins au quotidien. Donc, il ne s'agit pas de promouvoir un choix dénué justement du rapport à l'égalité sociale et économique, mais à mon sens, en tout cas, l'aspect que l'offre de services soit respectueuse aussi des disparités régionales, des disparités au plan culturel, au niveau social. Je pense que c'est très important.
Donc, on se retrouve face à un projet de société, à une révolution sociale et politique, mais aussi culturelle. D'autres choses à rajouter?
Pour reprendre les mots de Paul-Émile Bourdieu, dans un de ses textes importants, « La transformation continuelle », notre peintre et québécois disait en gros qu'il croyait à l'avènement d'une société anarchiste, mais qu'il fallait aussi des services publics pour la rendre plus forte, parce qu'une société qui se donne pas les moyens justement là de l'égalité pleine et entière va replonger dans l'inégalité, dans le développement inégal et à terme justement de nouvelles hiérarchies, de nouvelles oppressions.
Donc faut s'organiser si on veut pas se faire organiser.
Ouais.
Merci.
Country's host, they say tonight you can leave your home, and tomorrow it's gonna be a wedding going in the curfew. We'll light a roll when the police will let you know. When the bad dog comes round your door, who is the killer? Who is the killer? Stone cold killer. Food for the trigger. I'll shoot you down right on sight if you're out of the wrong time at night. And in a civil war, there's no civil rights. In the dead of dead, run for your life, they say tonight. You can't leave your home, and tomorrow there won't be a wedding gun in the curfew. Well, I do roam, and the bullets will let you know. When the bad truck comes round your door, who is the killer? Who is the killer? Stone cold killer. Food for the trigger. And the trenches are dug, and the bones they do shiver. The taste of war so cold and bitter. And the human race is the face of the killer. And the cost of life is really considered. They say tonight you can't leave your home, and tomorrow we're gonna be waiting, gun in the curfew. We'll light a roam, and the bullets will let you know. When the bad dog comes round your door, who is the killer? Who is the killer? Storm cold killer. Food for the trigger. Who is the killer? Who is the killer? Storm cold killer.
Yeah. Yeah, on vient de s'écorcher les oreilles avec du vieux Rancid avec Ivory Coast.
Et oui, et ben, c'était toujours c'est Cécilia 88.3 à Québec pour l'émission Voix de fait du collectif anarchiste La Nuit. Donc, ben quoi de mieux pour conclure une émission sur la place des services publics, comment t'avais dit déjà, libertaire, autogéré?
Libertaire ou autogéré, oui.
Service public autogéré, qui est d'appeler une manifestation.
Oui. Sur les services publics.
Entre autres, pour un budget
équitable. Ils l'ont dit à Chic, on est juste bon à appeler à manifester.
On ne veut que manifester. Écoutez, donc, samedi le 12 mars, il va y avoir une grande manifestation qui est appelée, organisée par l'Alliance sociale et la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. Ouh, je l'ai dit.
T'es capable.
C'est à Montréal. C'est sur l'heure du midi, mais il y a des bus qui partent de Québec et selon mes sources, il reste encore quelques places dans les autobus des groupes communautaires. Je sais pas si vous êtes syndiqué puis que votre syndicat il organise des bus, peut-être qu'il reste aussi de la place, peut-être que si vous êtes étudiant ou étudiante, c'est la même chose. Mais si vous n'êtes ni membre d'une association étudiante qui monte, ni membre d'un syndicat qui monte, c'est toujours possible d'appeler au REPAC. Ça, c'est le regroupement d'éducation populaire en action communautaire. Vous n'êtes pas obligé de retenir le nom. C'est de chapeler. Vous dites, je veux aller en autobus, il reste de la place. C'est le 418-523-4158, 418-523-4158. Le départ se fait à 8h15 de la base ville de Québec. Je vous dirai pas où, pour que vous appeliez et que vous vous inscriviez.
Ah, coquin!
Donc,
ou bien pour aller voir sur notre blog.
Sur notre blog, voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Laissons le suspense. C'était Nicolas en compagnie de...
Julie.
Et Stéphane.
Et Farouko.
Et Mathieu en différé.
Ah oui.
Bonne semaine sur les ondes de votre station communautaire préférée. Profitez-en pendant qu'elle est encore là.
Ouais, et puis on va finir avec un band de mauvais goût new-yorkais qui chante en espagnol en plus. C'est du Madball.
La vida es dura, la lucha también.